musique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien, chaudement maintenant.
Ah ben oui.
On a replié le tapis de Cannes, on a tout rangé.
Et oui.
On a remisé les costumes jusqu'à l'année prochaine.
Et là maintenant on est dans une tenue beaucoup plus décontractée.
Oui, style Roland Garros un petit peu.
Hein. Oui.
Balchon, terre battue et français qui passe pas le premier tour. Oui, c'est...
Monsieur s'intéresse à toute l'actualité, qu'elle soit cinématographique ou sportive. Alors et à propos de cinéma, vous nous conseillez quelques films à voir à la télé. Laurent, combien ?
Oui, j'ai sélectionné 3 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Et puis il y aura un conseil de lecture concernant le cinéma, bien sûr.
Ah bon ? Ça, c'est une aubaine que vous nous faites là.
Et un très bon livre en plus. Ouais.
Et ça nous donne envie de connaître le titre du film, mais il va falloir attendre
et
un
pour
moment.
Pour cet été, hein, on va commencer à donner des conseils déjà pour les vacances d'été. Tiens.
Oui, des livres à lire sur la plage. Exactement, ou ailleurs. En fait, un moment où on a envie à la fois de se détendre et à la fois de s'aérer l'esprit avec un peu plus que de beaux courants d'air et du bon soleil, mais avec de bien belles choses à lire. Ce soir, pas de Guillaume Sidom. Il a envoyé un mot d'excuse signé des parents.
Il n'a pas pu se remettre de Cannes.
Eh non, non, non.
Il est resté là-bas, d'ailleurs.
Oui, ouais. Je crains qu'il ait pris quelques vacances sur la croisette.
Ouais.
Eh oui, mais...
Il est chanceux.
Alors que ces fans qui sont là toujours pour l'acclamer, ces jeunes filles qui lui font une haie d'honneur, et là-haut-là, chaque fois qu'il passe, ne s'inquiète pas, il n'est pas malade, simplement absent, c'est tout. On le retrouvera la semaine prochaine. Par contre, il sera avec nous, notre homme de loi des séries, ouvrira son tribunal des séries, écrira haut et fort que Mission Impossible... Eh bien, Mission Impossible, ce n'est pas qu'un film, ce n'est pas qu'une série de films. Au départ, c'était bel et bien une série télévisée.
Tout à fait. Ouais.
N'est-ce pas ? Bonsoir, Monsieur Martin. Votre mission, si vous l'acceptez, si toutefois vous l'acceptez, oui. Bon, c'est pour tout à l'heure, avec Grégory Combe, notre homme de loi des séries. Et puis, nous regarderons avec vous, Laurent et l'ouvreuse, l'affiche de la semaine. Nous parlerons des reprises. Sur le petit, vous nous en avez touché un mot, Laurent, mais il y en a aussi sur le grand, on vous en parlera. Et puis, à la fin de l'émission, on aura, bien entendu, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des festivals qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et justement, à propos de festivals, un festival chasse l'autre. Vous l'avez dit, Laurent Martin, le tapis rouge a été rangé, mais il est prêt d'être déroulé à Saint-Geniès-Bellevue pour des tours en ciné-cours qui commence mardi prochain, 3 juin, et s'achèvera le 7 juin prochain, samedi. Des tours en ciné-cours, c'est son nom, et c'est un festival de courts-métrages. Et avec nous, nous avons la joie et le plaisir de recevoir Florence Bossert, une des membres actives de Des tours en ciné-cours. Bonsoir Florence.
Bonsoir.
Comment allez-vous Florence ?
Eh bien ça va, chaudement aussi, hein. Je confirme.
Et là, pas trop stressée par l'arrivée du festival prochaine ?
Alors, que puis-je dire ? Non, pas stressé, nous sommes prêts, ça c'est sûr. Ce sera magnifique, comme tous les ans. Et puis bon, on est dans les dernières lignes droites de la préparation.
Voilà, c'est toujours ces moments où on a peur d'oublier quelque chose.
Il y a toujours des petits réglages à faire, des problèmes de dernière minute
à
résoudre.
Exactement. Alors, ben vous savez tout, on est ensemble jusqu'à 20h. Mais Mais avant de retrouver Détour en Cinécourt et Florence Bossert qui va nous parler de ce magnifique programme qui vous attend, chers auditeurs, qui nous attend avec vous à Saint-Geniès-Bellevue, on refait un dernier petit tour sur la Croisette. Même si tout a été éteint, les projecteurs rangés, on l'a dit, le sable balayé et ratissé. Juste un dernier coup d'œil sur le palmarès et un qui nous intéresse aussi ici, c'est le prix du jury œcuménique, puisque tous les ans, il y a un jury œcuménique qui attribue un prix à un film qui fait partie de la sélection officielle. Attention, il faut qu'il soit dans la sélection officielle et en compétition. Et cette année, eh bien, le prix du jury œcuménique est allé aux Frères d'Ardenne, avec Jeune Mère. Le jury œcuménique, je lis leurs propos, décerne son prix à un film qui aborde les difficultés de mères adolescentes accueillies en maison maternelle. Il illustre une approche éthique, non pas par de grandes démonstrations, mais par des gestes bienveillants. C'est une histoire racontée avec douceur, dans la meilleure tradition des auteurs qui, une fois de plus, sont capables d'apporter de la nouveauté à leur style épuré. Oui, parler d'un style épuré pour les frères d'Ardenne, oui, c'est pratiquement faire un pléonasme.
C'est ça, oui. Ouais.
Toujours, ouais. Vous avez remarqué, c'est un cinéma, ils l'ont dit, style épuré, jamais de musique. Pas de musique dans les films des frères d'Ardenne.
C'est vrai, oui.
Rarement on entend une musique diégétique. Vous savez, ces musiques qui peuvent passer dans le poste ou que les protagonistes peuvent écouter.
Mais oui,
C'est très, très, très rare. Et le film a aussi obtenu une récompense du jury qui était présidé cette année par Juliette Binoche, puisque les frères d'Ardenne ont obtenu le prix du scénario. Alors, revenir sur le palmarès, non, on va pas le reprendre en détail, faire des commentaires, simplement vous indiquer le moment où vous pourrez découvrir le film, à moins que vous étiez privilégié, à savoir vous étiez sur la Croisette, ou alors dans une ville où on a pu passer des films en avant-première, ce qui était le cas de Toulouse, au Pathé Wilson. Eh bien, il faudra patienter pour la sortie officielle des films. Alors, un simple accident, la Palme d'Or, signée Jafar Panahi, sortira en France le 1er octobre 2025. Valeur sentimentale, le Grand Prix, le film de Joachim Trier, sortira quant à lui le 20 août 2025. La Petite Dernière, le film d'Avzia Herzi, qui a permis à Nadia Melty d'obtenir le prix d'interprétation féminine, sortira, lui, le 1er octobre 2025. Sound of Falling, prix du jury ex aequo, réalisé par Masha Chelinsky. Ah ben alors là, il faudra attendre, on ne sait pas combien de temps, jusqu'au calendrier grec peut-être, puisqu'il n'y a pas de sortie encore, de date prévue, de la sortie en France. Sirat, le film qui a eu le prix du jury ex aequo avec Sound of Falling, le film d'Oliver Lache, le film hispano-français, sort lui le 3 septembre 2025, le prix du scénario Jeune Mère, les Frères d'Ardenne. Eh bien, il est déjà en salle, le film, à pas attendre. L'Agent Secret, le film de Kleber Mendoza Filho, qui a eu le prix de la mise en scène et qui a aussi permis à Wagner Moura d'obtenir le prix d'interprétation masculine, sortira le 14 janvier 2026.
Ouh là là, oui, il faudra attendre.
Il faudra attendre longtemps. Quant au film de Bigam, la Résurrection, qui a eu le prix spécial, il n'a pas de date officielle de sortie en France. Alors, pour ça, c'est les films de la compétition. Pour les films hors compétition, Partir un jour, d'Amélie Bonin. Alors, Partir un jour, j'en profite pour parler à nouveau avec vous, Florence Bossert, parce que Partir un jour, le court-métrage qui a inspiré Amélie Bonin, qui l'avait réalisé, et qui est en fait le long-métrage qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes, eh bien, c'est l'adaptation de ce court-métrage. À ceci près qu'elle a inversé les rôles des personnages, puisque dans le court-métrage, celui qui revenait au pays, c'était le personnage incarné par Bastien Bouillon, c'était le garçon qui était auteur, écrivain, qui venait de publier un bouquin qui marchait bien et qui était en passe de devenir papa et qui rentrait dans sa ville natale pour aider ses parents à déménager parce que son père prenait la retraite. Là, c'est l'inverse, c'est elle qui revient pour aider son père qui est malade. Mais le principe est le même, sauf que dans Partir un jour, le long métrage, puisque c'est un film chanté comme l'était le court métrage, il y a plus de passages chantés qu'il n'y en avait dans le court métrage. Donc, on voit l'exigence de la programmation de détour. Amélie Bonin était programmée à détour et a même participé, il me semble, si mon petit doigt me le dit.
Oui, oui, ton petit doigt, Louis-Marie, est tout à fait judicieux. Elle a bien participé à une de nos sections de détours en ciné-cours. Et c'est aussi ce qui fait le charme de ce festival, c'est qu'on a des invités qui viennent et que l'on retrouve après beaucoup plus connus que quand on les a rencontrés. C'est ça qui est très intéressant. Ça permet aussi d'avoir une proximité avec des professionnels.
Partir un jour, donc alors, c'est pour donner les dates de sortie, lui aussi, il est déjà en salle, le film, puisqu'il est sorti le lendemain de sa programmation, de sa projection à Cannes en ouverture. Le film, je le disais, est hors compétition. Alors, le cadre du film de Spike Lee, Highest to Lowest, qui, selon les critiques, n'est pas extraordinaire, mais qui a été l'occasion au festival de donner une palme d'honneur à Denzel Washington, oui, puisqu'il exact. Interprète le rôle principal, le film de Spike Lee, lui, ne sortira pas en salle, mais le 5 septembre 2025, il sera sur Apple TV+. Voilà le cas d'espèce donc du film. La venue de l'avenir de Cédric Lapiche est déjà en salle depuis le 22 mai. Mission impossible, inutile d'en parler. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffa sortira le 29 octobre 2025. Vous savez, c'est l'affaire Bettencourt avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte en gigolo qui vole l'argent de la vieille dame. Et le très beau film de Rebecca Zlotowski avec Jodie Foster qui parle entièrement en français dans le film, on en a parlé abondamment la semaine dernière, Vie privée, sortira quant à lui le 26 novembre 2025. Alors on va pas faire la liste de tous les films de toutes les sélections, néanmoins il y a une sélection qu'on aime beaucoup, c'est L'Acide Cannes. J'étais ce matin en ligne avec Clara Tepper, une des cinéastes programmatrices de l'Acide, cette association qui fait la promotion d'un cinéma différent. Alors, il y a le film documentaire Nuit Obscure qui a été programmé donc à l'Acide, Ain't I a Child, qui sortira le mercredi 5 novembre. Le film dont on a beaucoup parlé, de Sepideh Farsi, vous savez, Put Your Soul on Your Hand and Walk, l'histoire de cette relation qu'a eue la cinéaste iranienne avec Fatem Asona, qui était une photo-reporter gazaoui. Et le film, ce sont ces échanges par Internet, par téléphone interposé. Et quand Sepideh Farsi a appris que son film était choisi par l'Acide, c'était le 15 avril 2025, le lendemain, Fatem Asona et 5 membres de sa famille étaient tués par l'armée israélienne. Donc, le film prend un nouveau relief et on pourra donc le découvrir le 24 septembre prochain, quand ça c'est comme Nuit Obscure, un film documentaire, vous l'avez compris, l'Aventura de Sophie Le Tourneur, le deuxième volet d'une espèce de trilogie de road trip à travers l'Italie. Le premier, c'était Voyage en Italie, il n'y avait que le couple. Cette fois-ci, le couple amène les enfants. C'est pas terrible tout ça. Il risque d'y avoir quelques problèmes. Sophie Le Tourneur interprète le rôle de la femme et c'est Philippe Catherine, l'homme. Le film, on pourra le découvrir très bientôt, le mercredi 2 juillet 2025. Voilà, on a tout dit sur ce qu'on peut, ce qu'on avait sur envie Cannes, de savoir voilà. Sur Cannes et ouais. Des films et de la date du moment où on pourra les découvrir. Thank you.
Main, tu sors 3 minutes, s'il te plaît.
Non, mais tu c'est sors. N'importe quoi, on va pas jouer à 5 contre 6 quand même.
Elle sort 3 minutes, main.
C'est bon, non, tu sors. Je suis crevée de toute façon.
Non, elle sort pas parce qu'elle est crevée, elle sort parce que je l'expulse. Venez ici, toutes. Je dis quelque chose, vous l'appliquez. On n'est pas là pour discuter mes consignes pendant une plombe. Il y a une main, elle sort. Vous avez voulu un arbitre. Maintenant, vous obéissez, c'est vu ? Ok, jouez. La balle au jaune.
Ah ben, il est intraitable, le papa, qui coach ses filles qui jouent au football. Il ne veut rien entendre. C'est un court-métrage qui avait été proposé par Détour. Alors, c'était à l'occasion de la 18e édition en 2016, avec une actrice qui allait devenir le chouchou du festival, puisqu'elle est revenue quelques années plus tard, à savoir en 2021. Cette actrice, c'est Solène Rigaud, qui est à l'affiche aussi, en ce moment, dans un long métrage, vous savez, dont on a parlé il y a peu de temps, qui s'appelle Berger, le film de la Canadienne Sophie Desraspes, le S, je me mélangeais. Alors, Alice Douard réalisait ce film, et Solène Rigaud allait jouer dans un long métrage quelques temps plus tard, non pas dirigé par Alice Douard en 2018, mais par Julien Allard, lui aussi passé par Détour, et comme des garçons, c'est l'histoire de la première équipe de football féminine en France dans les années 60, et elle était à nouveau footballeuse. Voilà qui est dit pour ce qui s'est passé à Détour, mais qu'est-ce qui va se passer cette année, Florence ? Dites-nous tout.
Alors, cette année, donc déjà, 28e édition, quand même.
Ah ben oui.
Je tiens à le signaler.
Belle longévité. Hein.
Ça fait quelques bougies sur le gâteau, maintenant.
C'est ça, ça commence
c'est
à faire.
C'est pile mon âge, 28.
Ouais, ah oui. Moi, c'est pareil. Oui. Et je ne dépasse pas les 28. Ouais, et donc cette année, alors, on a une programmation qui est un petit peu récurrente, d'une année sur l'autre, mais il y a toujours une séance, la séance de démarrage, qui met en avant un thème différent. Et donc cette année, le thème du mardi soir, donc du 3 juin, c'est les copains d'abord. Donc une séance autour de l'amitié, de la convivialité, de l'entraide, avec de très très beaux courts-métrages. Voilà, donc on est sous le signe des amis, oui. Avec un grand S.
C'est important, les amis, oui. C'est bien de les célébrer.
Et avec un grand S, IES, tout le monde.
Et un grand A. Et un grand A. Et voilà, donc après, des séances, les enfants sont couchés, on rejoue les Césars, Amour-Humour, ce sont des séances classiques, mmh. Bien sûr. Une plein air aussi, gratuite.
Ah, ça c'est bien.
Voilà.
Dans la cour du château, toujours.
Bien sûr, toujours dans la cour du château. Et on croise les doigts, mais normalement le temps devrait être avec nous. Donc voilà. Ensuite, le samedi, à partir de 11h, on démarre avec les courtissimo, donc des petits courts-métrages, entre 1 minute et 5 minutes, pas plus, juste pour se faire plaisir. C'est une mise en bouche avant une journée de séance qui se termine par Florilège francophone, où on donc propose plusieurs courts-métrages de la francophonie. C'est vrai que c'est un festival où, bon, déjà très convivial, avec beaucoup d'animation autour aussi de ces séances. Hein. Il n'y a pas que les séances de cinéma, mais on vient bien sûr pour le cinéma, mais ça permet aussi aux gens d'écouter de la musique, on a des prestations musicales, il y a aussi la moyenne de se restaurer. Les séances commencent à 20h30, donc ça permet aux gens de venir un peu en avant, de se poser, de pouvoir prendre leur place, et voilà, en attendant les séances.
Eh bien, on va regarder après un petit peu en détail la façon dont vous choisissez ces films et les films qu'on pourra retrouver dans ces séances. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Florence Bossert. Mais tiens, je vous propose d'écouter la musique qui illustre la bande-annonce tout à fait réussie de la 28e édition de Détour en Cinécourt.
Thank you.
La bande-annonce pour les images est signée Florian Villiers, il y a des « i », il ne faut pas les oublier, des images dont vous avez bien profité, mais vous avez encore mieux profité de la musique, elle est signée. Alors, je ne sais pas trop comment on dit son nom, parce qu'il paraît que c'est un producteur, concepteur de musique électronique un peu mystérieux, on ne connaît pas trop son visage. Ça s'écrit, ça pourrait se dire « Maki », mais ça s'écrit « M-C-K-3-Y ». Ça fait quelque chose de compliqué à lire. Et le morceau s'intitule « Roi ». Et tout de suite, on passe à l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et l'ouvreuse, bien sûr.
Ouais, Maki, ça veut dire 2025 en chiffre romain, peut-être.
Peut-être. Non, c'est des Y.
Oui, non, je plaisantais.
Ah oui, non, mais d'accord, mais vous avez peut-être raison, mais c'est des Y, alors ça fait plus de.
En tout cas, la musique est très bonne.
Oui, c'est.
Comme disait Jean-Jacques.
Exactement.
À l'affiche cette semaine, The Phoenician's Kimmy, le nouveau film de Wes Anderson avec un casting 5 étoiles, voire même 10 étoiles, on peut dire, avec Benicio del Toro, Mia Tripleton, Michael Cera, Tom Hanks, Matthew Amalric, Bill Murray, Scarlett Johansson. Nous sommes en 1950. Et Anatole Zagzag Korda, un industriel assez énigmatique, parmi les hommes les plus riches d'Europe, survit à une nouvelle tentative d'assassinat, son 6e accident d'avion tout de même. Ses activités commerciales aux multiples ramifications ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances. Korda est aujourd'hui engagé dans la phase ultime d'un projet aussi ambitieux que déterminant pour sa carrière, le fameux projet Korda, d'infrastructures maritimes et terrestres de Phénicie, une vaste opération d'exploitation d'une région comme ça, au potentiel immense, mais le risque financier personnel est désormais vertigineux, les menaces contre sa vie sont constantes, et c'est à ce moment précis qu'il décide de nommer et de former sa successeur, sa fille, Liesel, âgée de 20 ans, qui est aujourd'hui nonne. Oui, oui. Qui est donc loin du monde réel et du monde des affaires, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il a d'ailleurs perdu de vue depuis plusieurs années. Alors vous êtes peut-être lassé du cinéma de Wes Anderson, vous en avez peut-être marre de ses récentes explorations tantôt nostalgiques avec The French Dispatch ou tantôt théoriques avec Asteroid City. Ce film en compétition au Festival de Cannes, hein, qui est reparti bredouille d'ailleurs, pourrait bien nous réconcilier avec un réalisateur toujours aussi maniaque de la photo, des décors bien léchés, puis des acteurs 4 étoiles, mais qui prend parfois un malin plaisir à fissurer légèrement le moule. Le personnage principal est une sorte de Tintin en terre andersonienne, où les complots, les tentatives d'empoisonnement et le sens de l'aventure dopent le récit. C'est très BD, hein, c'est vraiment très bande dessinée, avec beaucoup d'humour. Il y a aussi, d'ailleurs, cette scène où Zaza offre une grenade à ses invités, comme on proposerait une pomme, par exemple. Et surtout, moins bien rangé que ses deux précédents films. The Phoenician's Kimmy s'autorise à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Un film absurde sur l'absurdité d'un monde peuplé d'hommes violents et nombrilistes, des grands gamins obsédés par leur pouvoir et leur argent. Wes Anderson est finalement comme nous tous, et l'ère Trump a imprégné insidieusement son imaginaire. Petite revue de presse sur ce film. On se pâme devant le casting absolument génial et la performance splendide de Benicio del Toro, selon Première. Le magazine Rolling Stone a bien aimé, maîtrisé et cabossé à la fois, dense et amusant, émotif et distant, The Phoenician's Kimmy est évidemment politique, choisissant un Moyen-Orient fragmenté et mécompris par ses voisins occidentaux. Petit bémol pour les Inrocks, on pourrait gloser sur les charmes de la différence dans la répétition, n'était que de s'incruste, fatigué et ennuyé, le sentiment d'avoir trouvé porte close. Et Libération n'a pas aimé non plus ce film, filmant Benicio del Toro. Del Toro, un riche magna réchappant à d'incessants périls, le cinéaste texan étire une intrigue de gros sous confuse et assommante. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir un film de braquage, ça s'appelle L'Ultime Braquage, tout simplement, de Frédéric Louis Vide avec Reda Kateb, histoire d'un braquage donc qui va mal tourner bien sûr. On peut voir aussi Elsie de Timothy Evin, film d'horreur à l'American Cosmograph. On peut voir Old Milk de Rebecca Lenkiewicz, une histoire assez tumultueuse de relations mère-fille en Espagne. On peut voir aussi Another Hand de Piero Messina au CGR Montauban en Paris à l'ABC Toulouse. C'est le deuxième long métrage de ce réalisateur en 10 ans, donc allez-y, dégustez-le. On peut voir aussi Kimé ou Chimé, je ne sais pas comment on dit, un moyen métrage de 46 minutes du grand Kiyoshi Kurosawa. Alors, j'ai une histoire particulière avec Kiyoshi Kurosawa parce que quand j'étais étudiant à Toulouse, j'allais voir tous ses films à l'ABC et à l'Utopia et je vois qu'il est encore en activité. Et d'ailleurs, il va refaire un film en juin qui sort, qui s'appellera Cloud, un film que vous pouvez voir ici à l'American Cosmographe. C'est un film vraiment qui questionne l'isolation de l'individu dans la société japonaise. C'est toujours intéressant, hein, Kiyoshi Kurosawa. On peut voir aussi Shimla, une fugue des temps modernes de Victoria Guillaumont et Joël Reboul. À noter qu'à l'ABC Toulouse, jeudi 5 juin à 20h30, il y aura une projection en présence de la réalisatrice Victoria Guillaumont, et du réalisateur Joël Reboul. Et puis pour finir, le dessin animé de la semaine, Diplodocus, un film d'animé des 6 ans de Wojtek Wadzik.
C'est bien sûr, Alexandre Desplat qui compose la bande originale du film de Wes Anderson, The Phoenician's Kimmy. Mais il y a des morceaux originaux qu'on entend au gré de l'histoire. Celui-ci en particulier, Dizzy Gillespie et Charlie Parker. Ah, c'est du lourd. Ça s'appelle A Night in Tunisia.
Sur Radio Présence.
Tout de suite, le tribunal des séries avec notre homme de loi Grégory Combe qui va parler de Mission Impossible, la série bien sûr.
Je déclare l'audience ouverte.
Bonjour Jim. Le Kanji, un pays asiatique, est dirigé par un régime militaire. Voici le général Chiang Kai. Il a pour ultime ambition de contrôler le pays tout entier. Votre mission, Jim, si vous décidez de l'accepter, sera de mettre fin au projet destructeur de Chiang Kai. Comme toujours, si vous ou l'un de vos collaborateurs était pris ou tué, le département d'État n'ira avoir eu connaissance de vos agissements. Ce disque s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim.
Cher Louis-Marie, vous le savez, je le sais, nous le savons, Mission Impossible, ce n'est pas que des films avec Tom Cruise, que des films avec des cascades avant d'avoir une série avec un scénario. Oui, je suis grognon parce que j'en ai marre, tout le monde me dit « Ah, Mission Impossible, Tom Cruise, formidable !» Oui, j'aime beaucoup les films avec Tom Cruise, mais Mission Impossible, c'est avant tout une série exceptionnelle, et sa suite, Mission Impossible 20 ans après, tout aussi exceptionnelle, qui raconte autre chose et de façon beaucoup plus fine. Et on va y revenir. Donc, Il y a d'abord Mission Impossible, la série originale, et Mission Impossible 20 ans après, que ma génération connaît bien, parce que c'est celle qui était rediffusée quand on était jeune. Cette série avec la musique emblématique, Mission Impossible, et cette fameuse phrase, « Bonjour Monsieur Fels, votre mission, si toutefois vous l'acceptez », donc on est déjà dans la mythologie de Mission Impossible, ça raconte quoi ? Ça raconte des agents, une équipe qui va intervenir sur plusieurs pays, pour déjouer des coups d'État, faire eux-mêmes des déstabilisations, de la désinformation, déjouer des complots, de l'infiltration dans un contexte de guerre froide, mais aussi de guerre avec des échappés du nazisme. Nous sommes vraiment dans une série d'équipes. Et c'est là où le bât blesse avec les films de Tom Cruise. Alors oui, vous allez me dire, il y a une petite équipe, mais qui ne font que le servir. Dans Mission Impossible, même s'il y a Jim Fels, le chef d'équipe, c'est l'ensemble des membres qui permet justement de résoudre les problématiques. Ils ont des moyens évidemment incroyables, sosie, acteurs, poupées de cire, fausse monnaie, électronique miniaturisée qui pour l'époque était assez extraordinaire. Donc ils s'infiltrent, ils déjouent des complots, ils réussissent, mais attention, ces missions sont difficiles et il y aura parfois des morts dans leur camp. Point particulier, le casting est divers et varié et chaque personne a son rôle à jouer. C'est ça la force de la série, une équipe plurielle. On a d'abord Daniel Dan Briggs, qui est le premier chef d'équipe. Eh oui, Louis-Marie, Jim Fels n'est pas le tout premier chef d'équipe. Alors certes, Daniel Dan Briggs, c'est le chef d'équipe de la première saison. Et dès la deuxième saison, on a Jim Fels qui arrive comme second chef d'équipe avec les phrases mythiques. Mais au départ, on a un autre chef d'équipe. Ensuite, on a Cinnamon Carter, qui est la femme séductrice qui s'infiltre sous fausse identité. On a Rollin Hand, le spécialiste du déguisement. C'est un rôle qui va revenir souvent. Barney Collier, le spécialiste de l'électronique. Paris, le comédien et spécialiste du déguisement, joué par Leonard Nimoy à partir de la quatrième saison. Et oui, le fameux Spock. On a les hommes forts, les hommes d'action qui vont compléter cette équipe. Donc vous le voyez, là-dessus nous avons une série extrêmement complète qui a gagné des distinctions de partout, des Emmy Awards, des Golden Globes, des Grammy. C'est une série exceptionnelle et je regrette vraiment qu'aujourd'hui il soit aussi difficile de la trouver dans une grande qualité. J'aimerais tellement qu'elle ressorte en Blu-ray avec une image retraitée à nouveau pour avoir une qualité maximale 4K. Ça serait formidable. Cette série est très complète et très bonne. Derrière, la série s'arrête, mais en 1988, Mission Impossible, 20 ans après, ressuscite le concept et revient. Toujours pareil, Jim Fels reprend du service pour des missions toujours aussi impossibles, entouré de nouveaux agents. C'est une pépite aussi, c'est génial. On est vraiment dans les années 80, on est vraiment en pleine guerre froide, début 90. La série, alors moi, j'avais l'impression qu'elle durait des années. En fait, c'est une série en 35 épisodes de 47 minutes. Elle a tellement été rediffusée que pression qu'elle est très longue. Et elle est tournée du 23 octobre 1988 au 24 février 1990, créée par toujours Bruce Geller. C'est une série assez extraordinaire en deux saisons. Certains vont lui trouver peut-être un petit peu moins de gravité que la première. Moi, je la trouve toujours formidable, mais le succès n'a pas été au rendez-vous. Elle s'arrête après deux saisons. Derrière, effectivement, on connaît tous l'histoire. La franchise est récupérée, Tom Cruise est mis au centre, et ce qui est vécu, je vais spoiler le Mission Impossible 1, je pense qu'on peut, comme une trahison. Moi-même, j'ai trouvé que c'était une trahison de la franchise. Jim Fels, le héros emblématique, trahi et le grand méchant du 1. Si le concept est intéressant, moi, je le trouve assez pourri parce que Jim Fels, c'est le mec incorruptible. Et non, c'est pas possible qu'il trahisse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'acteur n'aura pas voulu revenir. Donc, derrière, on part sur une série qui s'est perdue un petit peu avec un Mission Impossible 2 qui est totalement nanardesque et impossible à regarder. Un Mission Impossible 3 qui a voulu relier à nouveau avec l'esprit d'équipe, et ensuite des autres Missions Impossibles où c'est une équipe juste pour sublimer le jeu de Tom Cruise. Soyons clairs, j'aime les films de Tom Cruise, Mission Impossible, je les adore, je vais tous les voir, je les revois, à part le 2 et le 1. Mais clairement, on n'est plus dans cet esprit l'équipe. Moi, j'espère que quand Tom Cruise aura lâché cette série, on retrouvera cet aspect pluriel et qu'un jour, il y aura à nouveau des Missions Impossibles, en série télé ou en film, qui mettront en avant une équipe. Donc, si vous avez les VHS, si vous trouvez des vieux DVD, regardez, et encore Mission Impossible, la série originale et 20 ans après, ce sont parmi les plus belles séries qui aient été faites de tous les temps. Et c'est grâce à ces séries-là que nous avons des séries d'espionnage d'aussi grosse qualité aujourd'hui. Je vous remercie.
Bah, on aime, nous aussi, Mission Impossible. On est comme Grégory Com et on veut revoir Mission Impossible, la série. La musique emphatique de Mission Impossible. Pourquoi emphatique? Parce que c'est l'original, avec l'orchestration de Lalo Schifrin. Oui, oui, c'est lui qui l'avait composée. Et elle a été bien détournée à chaque nouveau épisode de la franchise avec Tom Cruise. Mais il y a toujours cette ligne musicale créée par ce grand compositeur américain qui a composé beaucoup de musique de films. Ne serait-ce que Bullitt, mais il y en a plein d'autres. Et puis pour les séries à l'époque, il y avait Manix aussi, pour ceux à qui ça peut parler. Mais en tout cas, c'était toujours Lalo Schifrin. Et tiens, alors là, c'est pas une série, c'est un cours.
La tige filetée dans l'orifice approprié.
Visser ensuite jusqu'à buter contre la pièce biseautée.
Si vous procédez de la sorte,
l'amour vous ouvrira ses portes.
Cette musique, cette chanson, on l'entend dans une comédie musicale qui dure 18 minutes et 30 secondes et qui s'intitule La prévention de l'usure. Eh oui, comment garder le feu toujours pareil, toujours incandescent, l'amour. Un court-métrage qui avait été proposé à Détour, c'était en 2011 pour la 14e édition, le réalisateur Gilles Charmand, Gilles Charmand était venu accompagné par son acteur principal, un certain Grégory Montel. Vous savez, celui de 10% et de quelques films qui ont fort bien marché sur grand écran. Et Gilles Charmand arrivait tout juste de Cannes puisqu'il avait été le premier assistant réalisateur d'Aki Korismaki pour Le Havre, proposé cette année-là à Cannes. C'est vous dire, s'il vient du beau monde à Détour en ciné-cours, Florence Bossert.
Oui.
Dites-nous tout sur la façon dont vous avez choisi les films et monté ces séances.
Oh là, alors.
C'est compliqué, ça.
C'est un peu compliqué. On visionne à peu près un millier de films. Hein, donc,
oui.
Oui, c'est pas une mince affaire. Oui. Et bien évidemment, ça se fait en équipe. Ensuite, il y a des petits groupes qui se répartissent les séances. Donc, ils vont visionner les films, faire des choix, noter en fonction de leur faire des appréciations. Et ensuite, on se retrouve tous par petits groupes pour pouvoir monter ces séances. Évidemment, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui se tienne, hein, en termes de contenu au niveau des courts-métrages. On retrouve toujours les thèmes. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris le thème. Comme on a aussi une séance sur On rejoue les Césars. Donc, là, le thème, c'est de pouvoir proposer des courts-métrages qui ont été primés ou pas, ou qui ont été sélectionnés. D'ailleurs, cette année, si je me souviens bien, nous en avons un qui a eu une palme d'or et que nous allons visionner. Donc, vous voyez, nous avons de très, très, très belles propositions de courts-métrages.
Et oui, c'est les films. Et alors, comme vous rejouez les Césars, vous proposez aux spectateurs de la séance de voter pour les films pour voir si leur vote va coïncider avec la Académie des Césars.
Exactement. Donc, en fait, c'est vrai qu'on demande à notre public adoré de jouer le jeu et de voter pour désigner quel est le film qui leur a le plus plu. Et parfois, on a des surprises, hein, Louis-Marie.
Ah oui, oui, oui.
Parfois, on a des surprises.
Il y en a qui votent deux fois. Mais...
Non, on compte. On compte.
On est très, très sérieux.
Oui. Sérieux.
On est très, très sérieux.
Très sérieux. le moment phare des tours en ciné-cours reste le vendredi 6 juin avec ouais. Amour Humour qui fait courir les foules. Bien l'avouer, parce que l'amour et l'humour, les spectateurs aiment.
Et c'est vrai que, comme on dit, c'est une petite pause légère hein, dans notre festival, avec des courts-métrages, le nom de la séance le dit, autour de l'amour, autour de l'humour, on en ressort joyeux. C'est la fin de la semaine, c'est bien, juste avant le week-end. On a quelques belles pépites. Et on aura aussi des invités, réalisateurs, actrices, qui viendront pour pouvoir parler de leurs films.
Ben oui, parce qu'il y a des rencontres, et des rencontres proposées, puis vos invités parlent avec le public à l'issue de la projection du film.
Tout à fait. Donc,
de leur film.
Donc ça aussi, c'est un moment dans l'organisation de ces séances. Donc nous avons des invités qui sont là pour parler de leur film. Donc il y a un interview qui se passe à la fin de la projection du film. Ou au début, ça dépend.
Le mieux, c'est de s'y rendre. On aura une dernière chose à dire au niveau pratique.
Oui.
Pour le moment, installez-vous.
Je croyais vous avoir dit à tous que je voulais le silence radio jusqu'à...
Oh, je suis vraiment désolé, Hans. Je n'ai pas reçu ce message.
Vous auriez dû faire une note de service.
J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Carl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire.
Comment est-ce qu'il peut savoir?
C'est très délicat de votre part.
Je suppose que vous êtes notre mystérieux invité surprise. Je vous trouve bien gênant.
Pour un gardien de la sécurité.
Désolé, Hans, vous avez perdu.
Il y a erreur sur la personne. Mais vous avez droit à une deuxième chance.
Qui êtes-vous?
Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur.
Vous avez reconnu cet emmerdeur, n'est-ce pas? En tout cas, sa voix française, puisque c'est la VF qu'on entend, et la fameuse voix de Patrick Poivet qui nous a quittés malheureusement, et qui était le doubleur attitré de de Bruce Willis. Et bien sûr, c'est un film qui marque à la fois
c'est
une époque.
C'est Piège de cristal, celui-là.
Bien sûr, c'est qui marque une époque et une nouveauté dans le film d'action, parce que c'est policier, mais c'est aussi rythmé. On peut dire par là que s'il n'y avait pas eu Piège de cristal, il n'y aurait peut-être pas Tom Cruise et son Mission Impossible maintenant, qui n'est pas loin de lui ressembler. Sauf que là, c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où c'est un homme qui arrive là, qui a un endroit où il devrait pas être. Et ça lui tombe sur le nez, quoi. Voilà. Il y a ça quand même une grosse différence. C'est l'emmerdeur, comme il est dit. Alors, le film Piège de cristal, inutile de continuer à en parler, si ce n'est pour dire que c'est John McTiernan qui l'a réalisé, qu'au générique, il y a entre autres Alan Rickman. Et Alexander Godounov pour les méchants, et que le film était signé John McTiernan, et que comme ça avait très très bien marché, le film a eu droit à 4 suites d'inégale qualité. Globalement, dans l'ensemble, ça tenait plutôt pas mal la route, hein. Une exception près, quand il est avec son fils, je crois, John McClane, puisque c'est son nom, oui, le personnage, il y a une histoire à Moscou assez abracadabrante, mais bon, abracadabrantesque, c'est comme ça qu'on dit.
On peut dire tout.
Oui, on peut dire tout. Alors, Piège de cristal à voir au Pathé Wilson dans sa version originale lundi prochain 2 juin à 19h30 dans les plans cultes de notre bien-aimé CGR à Rodez. Alors, il y a ça, cette musique composée par... On reconnaît les thèmes, c'est incroyable. Quand il compose, on sait que c'est lui. Ennio.
Ennio Morricone.
Oui.
Ennio Morricone.
C'est la musique des Incorruptibles.
Ah oui.
Ah oui.
Des Incorruptibles de Brian De Palma. Piège de cristal, c'était en 1988, et Les Incorruptibles 1987, juste avant. Là, on reconnaît le thème. Alors, c'est pas le thème principal, c'est le thème le plus mélancolique, puisque
c'est quand Sean Connery meurt, non?
Exactement. Ouais. C'est quand le personnage incarné par Sean Connery vient d'être tué.
Ouais, le vieux flic roublard.
Voilà. Et c'est ce titre-là qu'on entend. Et donc, le CGR Rodez propose Les Incorruptibles de Brian De Palma. Eh bien, c'est mardi prochain, 3 juin, à 20h, dans sa version originale à l'American Cosmographe. Eux, ils font rétro-cosmo. Ça rime aussi. Jardin d'été de Shinji Somai, un film de 1994 dans une version restaurée. Et puis, vous foncerez à la Cinémathèque hors les murs. Hein. Vous avez bien compris qu'il faut aller aux abattoirs. Nous sommes partenaires de la programmation Road Movie. Et vous pourrez voir. Alors, je vous donne juste les titres. Nous y reviendrons la semaine prochaine avec Franck Lubé. Vous pourrez voir La Balade Sauvage de Terrence Malick, un film de 1974. Ça, c'est samedi 31 mai prochain à 16h. Et puis, il y aura Perdita Durango, dont on avait fait la connaissance dans Sailor et Lula, le film de David Lynch. Exact. Là, elle a un film qui lui est entièrement consacré. Ouais. C'est Alex de la Iglesia qui l'a réalisé. Et là, le film, vous pourrez le voir le même jour, le 31 mai, mais à 18h. Et puis, enfin, il y a le très beau film de Jim Jarmusch, qui était présent sur La Croisette, mais c'était à la quinzaine des réalisateurs à l'époque. Il n'était pas encore dans la compétition. Ce film allait lui faire entrer Strangers in Paradise, qu'on peut voir toujours aux abattoirs, dimanche 1er juin à 16h. Allez, pour le grand écran, c'est fait. Pour le petit, c'est avec vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision garantit 100 balles jaunes. Ça commence dès vendredi à 21h20 sur TMC avec À couteau tiré de Rian Johnson avec Daniel Craig et Jamie Curtis. L'histoire d'Alan Trombay, auteur de romans policiers aussi riches que célèbres, qui est retrouvé mort d'un apparent suicide dans sa grande demeure. Les membres de sa famille se retrouvent dans la luxueuse maison alors que l'enquête menée par le lieutenant Elliot et l'agent Wagner suit son cours, une joyeuse relecture des romans à énigmes. Si vous aimez Agatha Christie et le Cluedo, par exemple. Dimanche, Arte 21h, on pourra revoir Né en 4 juillet d'Oliver Stone avec un excellent Tom Cruise. 1960, Ron s'engage dans les Marines pour partir au Vietnam. Et là-bas, il déchante vide devant les atrocités commises. Il est grièvement blessé lors d'une opération. Il sombre dans une profonde dépression. Inspiré d'une histoire vraie, un récit fort et poignant dans lequel Tom Cruise livre une performance impressionnante. Lundi, sur Arte, 21h, ce sera Atari. Rien à voir avec la console de jeu, le mari. Un film de 1962 de War Hawks avec John Wayne. Ce genre de film qui passait toujours à Noël quand j'étais petit et je le regardais chaque fois. Dans un coin de la savane au Tanganyika, Sean Mercer, un géant bourru hein, qui ne jure que par la camaraderie virile, c'est John Wayne, ne tarde pas à tomber sous le charme d'une jeune et belle photographe italienne venue faire un reportage sur lui. Superbement filmé, une comédie d'aventure réjouissante avec un John Wayne qui sort de sa zone de confort du western. Pour faire un western africain. Le conseil de lecture, ce sera L'aventure des films, histoire de 20 tournages mythiques d'Olivier Rachman. L'auteur nous livre le récit enlevé de 20 processus créatifs d'envergure racontant une histoire du cinéma à travers celle de films emblématiques. Alors, saviez-vous par exemple que le scénario de Taxi Driver était inspiré de la nausée de Sartre?
Ah non, je l'ignorais totalement.
Et Kubrick, sur le tournage de 2001, n'adressait pas la parole à ses acteurs.
Voilà. Oui, non, mais on savait qu'il avait un caractère de cochon.
On apprend plein de choses dans ce livre. Je rappelle le titre, L'aventure des films, que vous pouvez retrouver aux éditions Perrin pour 25€. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Yippie-ki-yay, pauvre con.
Ça, c'est Bruce qui parle.
Mais oui, oui, oui. Mais c'est pas pour vous, Laurent, c'est pas pour vous.
J'espère bien.
Oh bah non.
Il va pas me tirer dessus.
Oh bah non.
T'as pas fini l'émission.
On retourne à Détour, on y va à vélo. Là, on souffle, hein, on a du mal.
On a du mal.
Oui, vous entendez? Il souffle, il a du mal. Ça s'appelle Paris-Shanghai. Et oui, c'est un mec qui s'appelle Manu, et qui a décidé de faire ce périple de 20 000 km à vélo. Et il va croiser la route de Victor, un adolescent au volant d'une voiture volée. Voilà. Et le périple de Manu va tourner un peu court, hein, ou court tout simplement. Il aime les voyages, Manu, mais les grands espaces et les rencontres, Victor ne les aime pas. Et on ne sait pas s'il arrivera à Shanghai, en tout cas c'est mal parti. Ce film était proposé à la 14e édition de Détour en ciné-cours et il était signé Thomas Caillé, qui signait aussi la musique. Et Thomas Caillé, pour la petite histoire, maintenant c'est un réalisateur dont on connaît bien le nom, parce que bah, sa filmographie, son dernier long-métrage en date, c'est Le règne animal. Et puis il a été le créateur et le showrunner de la série télévisée Ad Vitam. Et puis, il avait fait, c'était sa première expérience en long métrage. Hein, Paris-Shanghai était déjà son troisième cours. Il en a réalisé deux autres par la suite. Son premier, donc, Les Combattants, avait très bien marché. Et le film révélait Adèle Haenel.
Et Kevin Azaïs.
Un film remarquable. Vous voyez que Thomas Caillé, qui avait participé à Détour également. Vous voyez que...
Découvreur de talent.
Et oui. C'est vous dire si que vous avez la possibilité de voir de très très belles choses et courtes en plus et remarquablement racontées. Alors que faut-il savoir du niveau pratique? Saint-Geniès-Bellevue, c'est où?
Alors Saint-Geniès-Bellevue, c'est dans la direction de l'Union, au-dessus, sur les coteaux.
Voilà. Et une fois qu'on y est, on cherche le...
Le cinéma Le Venturin. Mais je pense que vous entendrez aussi la musique et les gens qui seront pas très loin sur la place à côté du cinéma.
Puisqu'il y a toujours pour accompagner les soirées, le plus souvent de la musique, et vous l'avez dit, et des endroits où on peut agréablement patienter.
Tout à fait.
Ou échanger à propos des films qu'on vient de voir.
Exactement.
Alors, c'est du 3 juin au...
7 juin.
7 juin, le samedi. Alors, il y a plein de belles choses, on l'a dit. Les copains d'abord, les enfants sont couchés. Alors là, on vient sans enfants, vous l'avez
compris. Non, c'est mercredi soir. C'est mercredi soir, le lendemain, il y a école.
Il y a école, donc ils ne peuvent pas venir, c'est pas possible. On rejoue les Césars le jeudi, Amour, humour...
Le vendredi.
La séance plein air entièrement gratuite dans le parc du château.
Tout à fait.
À partir de 20... Enfin, du qu'il fait nuit, de toute façon.
Bah, ouais, il faut 22h30.
Il faut attendre qu'il fasse nuit. 22h30.
Et c'est gratuit, donc venez nombreux.
Voilà, donc les gens peuvent venir même que pour les plein air. Et de toute façon, il y a le moyen d'attendre la séance plein air en se restaurant ou en prenant un petit verre entre amis. Donc, c'est tout à fait faisable.
Et le samedi, dès 11h, plein de cours.
Oui.
Et jusqu'à 21h, entre-temps, il y aura eu 3 séances et une table ronde. Ça en fait des choses.
Ça fait plein, plein de choses. Une table ronde, donc, aussi très, très intéressante. Puis ça permet aux personnes qui aiment le cinéma de rencontrer les professionnels et de discuter avec eux. Voilà. Un peu de pratique. Hein.
Oui.
Alors, donc peut-être parler de nos propositions en termes de tarifs.
Ben oui, dites-nous tout. C'est bon à savoir, ça.
Quand même. Donc, cette année, en fait, on a créé un nouveau pass. Donc, il y a un pass qui permet à 40 euros d'avoir accès à toutes les séances. Et cette année, nous avons créé un autre pass qui est pour le samedi. Donc, toutes les séances du samedi à 25 euros. Le Courtissimo du samedi matin est au même prix pour tout le monde, 5 euros. Ensuite, pour les adultes, un tarif à 6,50 euros. Et pour les moins de 14 ans et étudiants, un tarif à 5 euros. Donc je pense que c'est tout à fait raisonnable pour venir se délecter et découvrir de très très belles pépites de courts-métrages.
Eliette, approche un peu. Viens voir.
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai envie de passer ma vie avec toi.
Moi aussi. Mon amour.
Je t'aime.
Embrasse-moi. Silvio. Silvio. Rendez-vous 19h ce soir au Café Jules, comme au bon vieux temps. Plus que quelques heures. Il faut que je me dépêche. Pour être honnête, ça fait 45 ans que j'attends ce moment.
Et oui, ça fait 45 ans qu'elle attend, la femme de dos de Karen Alix, qui était à la 14e édition de Détour, et c'était en 2011, et elle va retrouver son amoureux 45 ans plus tard. Nos coups de cœur, les vôtres d'abord, Laurent.
The Phoenician Scheme, l'ultime braquage, Kimi de Kurosawa, et Détour en ciné-cours, bien sûr, du 3 au 7 juin.
The Phoenician Scheme, Another End, ça c'est du beau et du grand film, et le Kimi d'Akira, non, c'est Kiyoshi Kurosawa. C'est pas Akira. Merci Laurent, merci Florence Bossert d'être venue jusqu'ici. Merci Laurent. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Ouvreuse. Restez fidèles à présence. À 20h, c'est Nathalie Cardon. Salut.
Bonjour, c'est Jérôme Debardis. Chaque semaine, plongez dans l'univers des garanties et des protections qui influencent notre vie quotidienne. Je vous explique les termes.